1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Yann avec vous pour l'émission Le Grand Tout sur Canal B, une émission quotidienne du lundi au vendredi, 17h-18h, qu'on retrouve aussi en rediffusion du mardi au samedi matin de 9h à 10h. Aujourd'hui, c'est une émission Champ Libre A, saison 3, épisode 8, dans laquelle on parle avec une artiste visuelle, Manon Langeouer, qui nous propose une sélection d'une dizaine de documents choisis dans les rayonnages de la bibliothèque des Champs Libres au deuxième étage. Bonne émission. Nous allons passer une heure à peu près en compagnie de Manon Langeouer. Bonjour Manon.
Bonjour.
Que vous allez pouvoir retrouver en tout cas son travail dans le cadre de l'exposition collective La Mer Jamais Ne S'Oublie. Elle débute le 28 avril et jusqu'au mois de septembre au Musée de Bretagne. Vous y retrouverez eh bien 5 regards féminins sur la mer, sur la beauté de la mer, sur les mystères et la fragilité. Et c'est peut-être sur tout ça en même temps, oui, que tu travailles. Je pense, Manon, toi tu es artiste visuel, on verra de toi des images qui bougent, d'autres qui ne bougent pas. Tu fais de la photo, mais tu n'es pas photographe. Tu embarques parfois sur des navires pour aller sur les océans, et tu aimes bien aussi aller sur la plage, malheureusement trouver des rejets de la mer, mais les transformer en des choses qui deviennent jolies. Mais bon, c'est un peu paradoxal tout ça, un peu ironique aussi, l'ironie un peu noire. Comment est-ce que tu te vois en tant qu'artiste, Manon? Est-ce que ton atelier, finalement, c'est une plage ou c'est une pièce avec des appareils et puis un banc de montage et puis aussi un fer à souder?
Oui, alors mon atelier, il est très fermé, mais j'ai plusieurs lieux de travail, entre guillemets. J'aime bien faire du terrain, je fais beaucoup de recherches avec des scientifiques en amont aussi pour préparer tous mes projets. Donc en fait, je travaille jamais tout à fait au même endroit. Donc j'embarque en mer, effectivement, comme tu l'as mentionné. Et voilà, c'est plein de terrains d'exploration différents, donc exploration scientifique où je fais plein de découvertes pour découvrir les problématiques qui sont liées au milieu océanique. Je fais effectivement du ramassage de déchets, je me questionne sur les pollutions. Donc voilà, j'arpente beaucoup de lieux différents pour essayer de mettre en place ces projets qui utilisent, comme tu l'as dit, la photographie, mais pas que.
On va se balader dans du cinéma, de la musique, et revenir peut-être, avant de commencer cette sélection-là, en une dizaine de documents empruntés à la bibliothèque des Champs Libres à l'étage numéro 2, revenir sur tes premiers souvenirs de mer.
C'est dur de remonter, c'est très très dur de remonter, parce que j'ai grandi en région parisienne, mais je suis originaire de la région de Saint-Malo. Donc en fait, depuis ma naissance, j'ai toujours été pour à peu près toutes les vacances en bord de mer, sur la mer aussi, parce que mon papa a toujours eu un voilier. Donc j'ai un rapport très amoureux au milieu marin, et j'ai pas de, comme c'est pas un choc qu'on pourrait avoir pour certaines personnes avec une découverte à un moment T, moi c'est quelque chose qui a toujours été là dans ma vie. Je sais pas si je saurais mettre un souvenir précis de la découverte. En fait, pour moi c'est là, ça a toujours été là, et c'est même un besoin vital. Si je suis loin de la mer trop longtemps, j'ai le corps qui tremble et je suis un peu défaillante. Je me suis réinstallée que très récemment, il y a un peu plus de 3 ans en Bretagne, et donc j'ai fait mon parcours d'études à Paris. J'ai grandi dans un théâtre, j'ai travaillé dans un théâtre, donc effectivement avant d'arriver aux arts visuels, j'ai fait quelques petites choses en parallèle qui m'ont permis de, voilà, de créer cet univers que je me crée aujourd'hui, qui mélange la photographie, la mise en scène, parce que je travaille beaucoup en installation. Voilà.
Première sélection de Manon Langeoire à l'instant, c'est un film de Wim Wenders, c'est un film documentaire.
C'est un film sur Pina Bausch, dont j'ai eu la chance de voir plusieurs productions au Théâtre du Châtelet, où j'ai travaillé pendant 7 ans et où j'ai grandi. Et c'est vrai que les œuvres de Pina, pour moi, ont été assez marquantes et ont chamboulé beaucoup de choses. Donc ça fait partie de ma sélection de manière assez évidente. J'aime le rapport qu'elle a, hyper enfantin, très naïf et à la fois très direct et très brut par rapport aux émotions, par rapport à ce qu'on traverse en fait dans la vie. Et ce que j'adore dans toutes ces productions aussi, c'est le rapport à l'espace scénique et toute la mise en... Enfin, tous les décors en fait. Je pense que moi j'ai une grosse appétence pour les décors et la construction de décors, et c'est vrai que elle, son compagnon, était son scénographe, et dans les scénographies il y a toujours un rapport au naturel et au vivant qui est assez important et qui m'a toujours beaucoup plu et qui, je pense, a beaucoup déterminé aussi moi mon écriture et la manière dont j'aborde la photographie et la mise en scène aussi que je fais. Et effectivement, ce film de Wim Wenders est super intéressant puisque c'est un film documentaire et tous ces danseurs en fait sont questionnés, puisque elle avait aussi un rapport à la production qui était très intéressant, puisque tout était discussion et tout était expérimentation, et elle considérait pas qu'elle créait toute seule en fait, elle créait en collaboration avec ses danseurs. Et moi, c'est aussi quelque chose que j'aime faire, travailler en équipe, collaborer, et ce film retranscrit assez bien ça.
J'espère que vous irez voir, et j'espère la voir aussi, l'exposition La mer jamais ne s'oublie au musée de Bretagne, et vous y retrouverez eh bien notamment des œuvres de Manon Langeoire, mais aussi de Juliette Pavy, Julie Bourges, Marine Lanier et Anita Conti. Enfin, une salle Anita Conti évidemment au Champ Libre, mais pas souvent des expositions qui lui sont dédiées. Et peut-être tu nous parleras un petit peu d'Anita Conti si tu veux bien, Manon. Manon Langeoire, notre invitée dans le Champ Libre A, saison 3, épisode 8, avec une sélection. C'est parfait comme choix, même s'il n'y a pas du tout de plage dans Einstein on the Beach, il y a juste la musique répétitive de Philip Glass.
Oui, tout à fait. Dans mes souvenirs, puisque je l'ai vu il y a quand même un certain nombre, j'ai eu la chance de voir une reproduction d'Einstein on the Beach qui avait été créée pour Avignon dans les années 70, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on l'a reproduit au Théâtre du Châtelet dans les années 2010. J'ai eu cette chance de le voir. C'est quand même un opéra qui dure un petit peu longtemps, pas loin de 5 heures. Dans mes souvenirs, il n'y a effectivement pas de plage, mais pour moi, c'est une œuvre majeure et c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclenchement et j'ai voulu sortir de la photographie entre guillemets classique avec des tirages sur papier, puisque c'est vraiment une œuvre pluridisciplinaire. C'est pas seulement la musique de Philip Glass, c'est la mise en scène de Bob Wilson, qui est quand même un artiste majeur, les chorégraphies de Lucinda Child, qui est une super chorégraphe aussi, et dont il y a une expo là au FRAC Bretagne, un super livret et des mots de Christopher Knowles, et j'ai vraiment pris conscience de l'ampleur, l'importance et l'intérêt d'une œuvre pluridisciplinaire. Et c'est vraiment là où j'ai voulu faire intervenir aussi d'autres choses dans mon travail. Le son, l'image en mouvement, les mots. Enfin voilà, que ça crée des espaces immersifs où énormément de choses dialoguent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
three, four. Two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four. Two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six, seven, eight.
Will it do something for you, Zilbert? And it could be for you.
It could get the railroad for its records.
And it could be
worse.
It could drink it. It could be drinking. It could be very fresh and clean. It could be a balloon.
Well,
these are the days, my friends. These are the days, my friends. It could get some wind for the sailboat. And it could get rid of it. It could get the railroad for these workers. It could get rid as well. It could be a balloon. It could be drinking. It could be very fresh and clean. These are the days, my friends. And these are the days, my friends.
Will it get some wind for the sailboat? It could get those buildings. Get the railroad for these workers. It could be a balloon. It could be drinking. It's very fresh and clean. It's my friends. It could get some gasoline for this friends.
D'un côté, c'est sûr, mais tout se mélange en fait. Art total, on pourrait dire, puisque je n'ai pas vu, moi, La mer endormie, mais j'y vois quand même un film, puisque j'ai des photogrammes sous les yeux sur le site de Manon Langeoire, où on voit la nature, on voit un cadre qui est posé, on voit une personne, toi d'ailleurs, qui danse peut-être, qui bouge en tout cas, c'est sûr. Donc il y a un peu, il y a le mouvement, il y a le corps, il y a l'image et le son.
Je ne sais pas si on peut dire art total, puisque ça reste de l'art filmique et effectivement dans le film le son intervient également. Effectivement, La mer endormie, je me mets moi-même en scène. Je ne danse pas puisque je n'ai pas ces capacités-là, mais effectivement je me mets en mouvement et j'invente un rituel en fait écoféministe où je vais avoir un geste qui se répète à l'infini, celui de jeter. Un caillou à la mer. Et donc ce geste-là, c'est à la fois un geste de révolte, il fait écho justement au geste de mai 68, ou tous les gestes qu'il y a eu en Irlande aussi en 69, donc les révoltes des jets de pierre. Et à la fois, c'est aussi un acte de soin, puisque ces cailloux que je jette à la mer sont des fossiles qu'on retrouve dans le parcours et l'espace d'exposition. Et avec l'idée de se dire que la mer est la source de toute vie, et que si je relance ces fossiles à la mer, peut-être j'arriverai, suite à la sixième extinction de masse qui arrive à grands pas, à réensemencer l'océan.
Alors, il y a quelque chose de vertigineux, évidemment, quand on t'entend, et quelque chose qui fait penser à Sisyphe et son rocher, en fait, qui, sans arrêt, essaye de mener à bien son œuvre, mais en fait, il doit la recommencer sans arrêt. Est-ce que t'as pas cette impression effrayante là aussi, que peut-être toi, dans ce film, La mer endormie, tu fais quelque chose qui devrait être fait et sans cesse, mais qui n'aura pas d'effet à la fin?
Oui, bah il y a de ça effectivement. Le mythe de Sisyphe fait partie des références que j'ai eues quand j'ai construit, que j'ai écrit ce petit film qui dure 15 minutes et qui est présenté en fait comme une boucle filmique. Donc effectivement, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin et ça se répète de manière continue. Et je pense aussi que j'ai eu l'idée de cette boucle et un film qui ne se termine jamais parce qu'effectivement moi, la sensation que j'ai aussi au quotidien, c'est de se dire que ces gestes de soins qu'on peut avoir, que je peux avoir au quotidien, ces gestes qu'on essaye de mettre en place pour faire attention à notre environnement et le monde dans lequel on vit, je pense qu'on peut avoir la sensation de ne pas toujours être soutenu par les décisions politiques qui sont prises aussi. Et donc, effectivement, avoir l'impression que ces gestes n'ont pas de finalité et qu'on les répète quotidiennement sans comprendre à quoi ils servent, à quoi ils mènent. Et je pense qu'il y a un peu de ça aussi dans le film, avec cette idée de se dire que le geste est répété toujours, et est-ce que finalement il débouche à quelque chose réellement.
Un travail artistique, visuel, qui aussi fait rejaillir des questions philosophiques et d'engagement politique aussi, et c'est forcément les deux liés chez toi, j'ai l'impression, à la fois une œuvre qui va rester, qui sera visuelle, et puis un appel au secours, c'est pas ça vraiment, mais on essaye de prévenir quoi aussi, j'essaye de prévenir les autres.
Oui, alors c'est pas un appel au secours, même si effectivement il y a un peu la notion de catastrophe dans mon travail, parce que je fais beaucoup de récits d'anticipation où j'imagine que la pollution plastique a fait muter les micro-organismes, ou là qu'on arrive à la 6e extinction de masse. Donc il y a un côté catastrophique, mais c'est pas un appel au secours. C'est plutôt, j'envisage plutôt comme un appel à réfléchir, à se poser des questions sur la manière dont on traverse notre vie, le monde, et est-ce qu'il y a des choses qu'on peut changer justement pour prendre un peu plus soin du vivant en fait. Et donc j'ai un travail, en tout cas depuis 2021, qui est engagée dans ce sens-là. Je me considère maintenant comme artiste militante pour la préservation de l'océan notamment, mais effectivement un travail engagé qui pose des questions.
On va aller vers le cinéma, un cinéma peut-être qui là aussi fait réfléchir et fait s'interroger sur une possible extinction nouvelle. Est-ce que tu peux nous présenter le film qu'on peut évoquer maintenant de Lars von Trier?
Oui, alors Mélancolia, c'est vraiment un film que j'ai adoré à sa sortie et que j'ai très très souvent revu. Il me plaît pour plein de raisons. Il est construit comme un opéra, donc effectivement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup de par ma construction à moi dans le milieu théâtral entre guillemets. Et j'aime beaucoup en fait ce rapport à la catastrophe qu'il y a dedans, puisque c'est en fait deux planètes, la Terre et une planète qui s'appelle Mélancolia, qui vont se rencontrer, donc la Terre qui va exploser. Et j'aime beaucoup le fait qu'en fait cette catastrophe qu'il a imaginée ne pourrait être qu'une allégorie en fait de ce qu'un des deux personnages ressent en fait, et qui traverse une période de dépression et de mélancolie extrême. Et donc je trouve qu'il y a un rapport très poétique aux catastrophes naturelles qui pourraient exister, et donc je trouve que ça le ramène aussi beaucoup à l'humain, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, en plus d'avoir des images tout à fait sublimes, et ça a été pour moi une grosse référence pendant un certain nombre d'années.
What star is that?
Melancholy is just gonna pass right in front of us, and it's gonna be the most beautiful sight ever.
It's gonna be a lot different.
What did you expect? I'm afraid of that stupid planet.
Dad said there's nothing to do.
Then he's forgotten about the magic.
I want us to be together when it happens.
On écoutait un extrait de ce film Mélancolia de Lars von Trier, choisi par notre invité aujourd'hui, Manon Langeouer, que vous retrouverez à travers l'exposition collective La mer jamais ne s'oublie au musée de Bretagne. Il y a une figure tutélaire un petit peu qui surplombe peut-être les autres artistes qui seront montrés. C'est Anita Conti. Et Anita Conti, j'ai l'impression que tu es un petit peu une sorte de descendante comme ça, spirituel de cette femme qui embarquait sur des bateaux il y a très très longtemps, il y a près de 100 ans maintenant. Est-ce que tu te vois comme ça aussi ?
Je ne sais pas si je me vois comme ça. J'espère être à la hauteur. Oui, de toute façon, Anita Conti, pour moi, c'est une figure de référence depuis que j'ai commencé à travailler sur les problématiques en lien avec la mer. J'ai lu énormément de ses livres. Voilà, pour moi, c'est une figure emblématique parce que c'est une océanographe, une pionnière. Ça fait plus de, enfin, c'était il y a plus de 100 ans que déjà elle sonnait l'alarme sur la manière dont on fait de l'extraction, la manière dont on pêche en fait, et où la manière dont on pêchait déjà il y a 100 ans. Elle avait déjà une vision très globale et une idée de l'écosystème. Voilà, elle comprenait l'interdépendance de toute espèce, et en plus voilà d'être scientifique, c'était une grande artiste. Elle écrivait incroyablement bien. Ces images sont d'une beauté, une beauté formidable. Donc, oui, pour moi, c'est une grande référence. Je ne sais pas si je suis une descendante parce que je suis moi-même pas scientifique, même si je travaille en collaboration avec des scientifiques. Mais en tout cas, je pense que je partage son amour de la mer, son envie d'explorer.
C'est vrai, quand je reprends une partie du texte de présentation de cette exposition collective La mer, jamais des oublie, Anita Conti, journaliste, relieuse d'art, océanographe, photographe, écrivaine, elle a beaucoup fait de choses, hein, et toi aussi, finalement, tu fais beaucoup de choses dans des champs proches, peut-être, mais ce que tu as pu faire, par exemple, en embarquant sur le navire Tara, là, tu étais en compagnie d'une équipe de scientifiques.
Les conditions sont tout à fait différentes puisqu'elle a embarqué sur des bateaux de pêche, mais effectivement, j'ai eu la chance en 2021 d'embarquer sur la goélette Tara qui fait des prélèvements qui sont ensuite dispatchés dans plein de labos scientifiques différents et qui a à cœur voilà de faire connaître, découvrir et défendre le milieu marin. Et donc pendant un mois j'ai embarqué au large du Brésil et j'ai eu l'immense joie de découvrir l'existence des micro-organismes et du plancton, puisqu'avant d'embarquer je pensais que le plancton se résumait à du krill, et j'ai compris qu'en fait il y avait des centaines de milliers d'espèces différentes. Donc ça a été un choc et une découverte fantastique et assez magique à vrai dire, et c'était un temps qui était pour moi ultra précieux parce que on est en mer, on est coupé du quotidien, on est coupé de cette réalité qu'on connaît du monde extérieur, et donc il y a quelque chose de très introspectif dans ces moments de vie en mer, partager ces temps-là en huis clos avec les marins, les scientifiques, et ça a fait beaucoup avancer mon projet. J'ai rien produit directement sur le bateau, donc contrairement à Anita ou à des photographes, je n'ai pas capturé d'image en fait en mer. J'ai capturé un maximum d'informations, je me suis nourrie pour après, une fois de retour à mon atelier, construire toutes mes pièces, construire mon récit et voilà, et mettre en scène la problématique que je voulais aborder avec mon premier projet qui portait sur la pollution microplastique et son impact sur les micro-organismes. Et c'est vrai qu'après, j'ai essayé de retrouver ces temps-là, et c'est quelque chose que j'essaye de remettre en place régulièrement, de me dire d'avoir des vrais moments de mer où on est coupé du monde et où il y a une vraie introspection. Et je trouve que les réflexions vont beaucoup plus vite parce qu'on n'est pas sollicité par autre chose, et c'est des moments qui sont très très précieux.
Et parfois, on peut écouter de la musique aussi sur un bateau, j'imagine. On va écouter de la musique maintenant. Et tu nous parleras juste après de cette chanson de Aléla Diane.
Oh, my mama, she gave me these feather breaths. Oh, my mama, she told me, use your voice, my little bird. She said, sing, 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 sing.
C'est pas quelque chose que j'ai écouté en mer, mais c'est une artiste que mon papa m'a fait découvrir, et c'est aussi mon papa qui m'a fait découvrir la mer. On partage beaucoup de choses sur ces deux points, musique et navigation.
Be dancing on, and I'll tap, tap, tap my toes into those creaking floorboards. Oh, my mama, she took my little hand and held on tight. Oh, the mamas give the waters of their wells.
C'est une artiste qui m'émeut beaucoup, en fait. J'aime sa voix, j'aime sa douceur, elle me transporte. Et c'est ce morceau-là, c'est le premier morceau avec lequel je l'ai découverte et qui résonne particulièrement pour moi en ce moment, puisque je suis devenue maman il y a un an, et donc il me touche tout particulièrement aujourd'hui.
Drops all those feathers, and when the birds sing in the morning, I'll be a mama, I'll have a daughter, I'll be a mama, I'll have a daughter.
Bon, il y a l'idée de la transmission, on l'entend bien, de toute façon, aussi bien la transmission de l'amour, de la voile et de la mer, et puis ensuite la transmission à d'autres, pas forcément de ton sang ou de ta chair, mais à travers les œuvres que tu fais, il y a une transmission aussi vers le public. On peut partir au Brésil, il semblerait, puisque là aussi, c'est des grands goûts que tu peux avoir pour la musique du Brésil.
C'est pareil, c'est mon papa qui m'a fait découvrir la bossa nova, la musique brésilienne. Donc j'ai eu cette musique pendant très très longtemps dans les oreilles, et en fait j'avais oublié que j'avais grandi avec ce type de musique, et c'est en découvrant Agua de Pina Bausch que j'ai eu de nouveau cette révélation, puisque c'est une pièce qu'elle a écrite avec toute son équipe quand ils sont partis justement au Brésil. Donc il y a énormément de musique brésilienne dans cette pièce-là, et en voyant la pièce, en fait, tous les morceaux ont résonné, ça m'a renvoyé dans mon enfance, et depuis ce jour, je n'ai pu arrêter tous les jours d'écouter effectivement de la musique brésilienne. Et donc quand on m'a annoncé que j'embarquais sur Tara au large du Brésil, mais quel bonheur!
Eh bien, on écoute Baden Powell pour commencer, on revient loin, et puis une descendante aussi de la bossa originelle, c'est Bebel Gilberto juste après, et choisie par notre invité du jour dans Champ Libre 1, saison 3, épisode 8, Manon Langeouère.
melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. É preciso um bocado de tristeza. Senão se faz um samba. Fazer samba não é contar piada. E quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. O que o samba é a tristeza que balance. A tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Põe um pouco de amor numa cadência. Vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia. Se hoje ele é branco na poesia. Se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. De amor numa cadência. Vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba, não. Ele é branco na poesia. Ele é negro demais no coração.
On ne jouera pas au jeu des sept familles de la musique brésilienne parce qu'on risquerait de se tromper entre le père de la fille de le cousin de la belle-sœur de... En tout cas, vous entendiez à l'instant Bebel Gilberto, choisi par Manon Langeweer, notre invité aujourd'hui. On a embarqué autour d'une exposition comme ça que vous allez voir à partir du 28 avril au Musée de Bretagne. C'est La mer jamais ne s'oublie. On se balade dans une sélection en une dizaine de documents empruntés au deuxième étage de la bibliothèque des Champs Libres avec Manon. Et là, on va poursuivre avec de l'animation japonaise et on voit bien le souci écologique que peut avoir le réalisateur que tu as choisi maintenant. Mais je pense que tu pourras aussi nous parler d'un autre réalisateur dont tu n'as pas amené aujourd'hui de documents mais qui aurait été très important aussi pour toi. Mais là, on va commencer par cet artiste japonais.
Oui, Miyazaki, effectivement, c'est un réalisateur dont j'adore le travail. J'aime sa magie, son lien à la nature et au vivant, en fait. Pour moi, c'est très constructeur. J'espère que énormément de gens regardent son cinéma parce que je trouve qu'il invite à se comporter de manière différente et d'envisager le vivant aussi de manière différente, puisque En fait, il personnifie énormément le vivant qui peut prendre des formes humaines et c'est voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup en fait. Le reste du monde en fait est l'égal de l'homme, voire est même considéré comme une divinité. C'est un rapport qui me plaît beaucoup et que je trouve qu'on devrait avoir beaucoup plus. Et donc, en ce sens, ces films m'ont beaucoup marqué et voilà, c'est très dur de choisir parce que je les aime évidemment presque tous ou tous. Mais voilà, Ponyo sur la falaise, avec mon travail aujourd'hui, c'est un choix aussi qui est assez évident et qui est un film très beau sur le milieu marin.
Ponyo veut devenir humaine.
Humaine ? Tu veux devenir comme ces créatures ?
Sasuke, dépêche-toi !
Lisa, mon poisson, je vais l'appeler Ponyo.
Lorsque ce puits sera plein, une aube nouvelle poindra du fond des océans. Et le cycle de l'humanité destructrice prendra fin. Elle n'a pas conscience des lourdes conséquences de ses actes.
Ça va tout l'air d'un cimetière de bateaux, capitaine.
Le chaos a déjà commencé. L'univers court à sa perte.
Ne pleure pas, Lisa.
Ponyo, Ponyo!
C'est vrai que moi, j'ai promis à Ponyo de prendre soin d'elle tout le temps.
Quand on a parlé un petit peu avant d'enregistrer ce chant libre, j'ai vu quelques-uns des photogrammes de la mer endormie et ça m'a immédiatement fait penser à l'image de Chris Marker en fait. Et tu as convenu que oui, finalement, c'est quelqu'un de très important pour toi. Donc même si ça ne fait pas partie de ta sélection de documents, je veux bien que tu nous en parles un petit peu quand même de ton goût pour son travail et puis des proximités que tu vois avec ce qu'il a fait.
Effectivement, Chris Marker, pour moi, c'est vraiment une référence quand j'envisage l'image animée, en fait. Je pense que c'est un peu cliché, mais comme beaucoup d'étudiants en photographie ou en cinéma, j'ai regardé un million de fois La Jetée qui m'a marqué. Ce que j'aime le plus dans ses films, c'est presque pas l'image, mais c'est le son et les voix. Son rapport aux voix off. Moi, j'ai aussi des voix off dans mon film, deux voix qui discutent, cette pierre que je jette à la mer et moi-même, en fait. Et ce sont des réflexions, justement, sur notre rapport au vivant, des questionnements, en fait. Ce sont deux voix qui questionnent. Et c'est vrai que dans son film Vive la baleine aussi, sa voix off est ultra impactante pour moi. Questionne et dénonce, montre vraiment énormément de choses. J'aime la manière dont ses voix sont posées. Enfin voilà, le son dans ses films est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et effectivement aussi les images, puisque comme lui, je refilme certains tableaux auxquels je fais référence aussi. Et je pense qu'effectivement, il y a des petits liens ou des passerelles à faire. Et en tout cas, effectivement, c'est un réalisateur qui m'a énormément inspiré.
Et on ne va pas parler de Pain Levé non plus, peut-être
Pain Levé, pareil. Pain Levé, pour moi, c'est une référence gigantesque. Et d'autant que Pain Levé a beaucoup travaillé à la station biologique de Roscoff, où j'ai eu la chance d'aller et pour mon projet Les Particules, et pour mon projet La Mer Endormie et le Mémoire Sauvée de l'eau, qui sont les deux chapitres que je montre au Champ Libre. Et donc, voilà, effectivement, Pain Levé, c'est important, c'est très beau et j'adore son travail.
Vous avez compris, il y a des moyens très variés de découvrir le travail de Manon Langeois et les références sont assez multiples comme ça, des rhizomes comme ça qui nous permettent d'arriver à aussi d'autres imaginaires. Alors on continue à se balader dans ces documents là que tu nous fais découvrir aujourd'hui. Vous allez pouvoir entendre maintenant et bien deux chanteuses qui toutes les deux ont éveillé des consciences, ont fait rêver aussi. On va commencer peut-être en Californie, tiens, avec une première sélection. Là aussi, tu as pu naviguer au large de la Californie.
Non, malheureusement, c'est un territoire que je ne connais pas et qu'il me reste à découvrir. Je voyage peu dans le souci de ne pas prendre l'avion. Voilà, et donc je n'ai pas encore fait de transatlantique ni de transpacifique et je ne connais pas la Californie, mais... Voilà, Joni Mitchell, il n'y a pas de rapport à mon travail, juste sa musique me transporte, sa voix me fait trembler, je suis en amour avec ce morceau.
Sitting in a park in Paris, France, reading the news and it sure looks bad. They won't give peace a chance, that was just a dream some of us had. Still a lot of lands to see, but I wouldn't want to stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. Oh, but California, California, coming home. I'm gonna see the folks I dig, I'll even kiss a sunset pig. California, I'm coming home. Met a redneck on a Grecian Isle, who did the goat dance very well. He gave me back my smile, but he kept my camera to sell. Oh, the rogue, the red, red rogue. He cooked good omelets and stews, and I might have stayed on with him there, but my heart cried out for you. California, oh, California, coming home. Oh, make me feel good, rock and roll band, I'm your biggest fan. California, I'm coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news on your ears just give you the blues. Plane to Spain, went to a party down a red dirt road. There were lots of pretty people there, reading Rolling Stone, reading Vogue. They said, how long can you hang around? I said, a week, maybe two, just until my skin turns brown. And I'm going home to California, California, I'm coming home. Oh, will you take me as I am? Strung out on another man, California, I'm coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news at home you read more about the war and the bloody.
Sur la fenêtre, le ciel n'était pas clair, mais le jardin était vert, vert, vert. Et devant moi, celui que j'aimais, mais tout est trop calme, pas de bruit infernal, jamais de son original. Celui de mon cœur, rend-il par un mineur. Babadabadidin, babadabadidin, babadidin, babadabadidin. Le vent de septentrion est là, je reste à la maison pour écouter crépiter le feu. était si calme. Pas de bruit infernal, jamais de son original, sauf celui de mon cœur quand il part en mineur. Babadabadidam, babadabadidam, babadidam, babadabadidam. La pluie coulait sur la fenêtre, le ciel n'était pas clair, mais le jardin était vert, vert, vert. Et devant moi, celui que j'aime, mais tout est trop calme.
Vous l'aurez reconnu, c'est sûr, cette chanteuse qui, là aussi, eh bien, séduit pas mal les oreilles de Manon Langeoir, Véronique Sanson.
À vrai dire, je suis pas une énorme fan de Véronique Sanson, mais en fait, ce morceau Vert, Vert, Vert provient d'un album, un de ses premiers albums, en tout cas, qui s'appelle Le Printemps. Le Printemps est là, et tout l'album, je le trouve absolument. Absolument sublime, et cette chanson Vert, Vert, Vert me touche beaucoup. J'ai l'impression de sentir l'odeur de l'herbe mouillée, du gazon fraîchement tendu. Enfin voilà, c'est un morceau que j'affectionne beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas pour moi une chanteuse référence. C'est une chanteuse qui a quelques tics.
Des morceaux cachés quand même qui te plaisent.
Et voilà, et c'est un morceau effectivement caché pour moi, et voilà, et c'est un morceau que j'adore.
Dans le travail de Manon Langeoir, qu'on peut découvrir à travers notamment un court documentaire qui t'a été consacré par la chaîne Arte, plusieurs artistes qui sont autour de l'océan, de la mer, de la plage. On peut te voir inventer des fossiles qui n'existent pas, en fait, ou transformer des objets récupérés sur la plage pour leur donner presque une apparence de fossiles, en fait, ou d'objets ou d'êtres vivants qu'on trouve dans la mer.
J'ai à cœur d'essayer de revaloriser nos déchets à travers mon travail. Donc, j'ai beaucoup travaillé plastique dans un précédent boulot, les particules. Et maintenant, pour ce travail qui s'appelle Mémoire sauvée de l'eau, dans lequel j'essaye de faire ces faux fossiles, j'utilise les coquilles d'huîtres, puisqu'on en produit mais des centaines de milliers de tonnes par an. On ne fait rien de ces coquilles, elles sont incinérées alors qu'elles sont une ressource calcaire absolument formidable et incroyable. Et donc j'utilise ce matériau-là comme matériau de sculpture. Et donc je crée des plaques ou des petites roches sur lesquelles je viens ensuite apposer un tirage photographique d'une espèce qui est vouée à disparaître. Donc une espèce, très précisément une espèce qu'on appelle benthique, donc ça veut dire qui vit sur le sol de l'océan. Et ces espèces sont actuellement arrachées par toutes les techniques traînantes de pêche, donc ce qu'on appelle les arts traînants, par exemple le chalutage de fond, le dragage, en fait, qui arrache tout sur son passage et qui arrache ces espèces dont on ne parle jamais puisque ce ne sont pas des espèces qu'on consomme, et donc elles ne rentrent pas dans les quotas de pêche, mais ce sont des espèces pour beaucoup qui sont ingénieurs et qui rendent des services écosystémiques ultra importants, en fait, pour les espèces qu'on consomme, et donc avec l'effet boule de neige pour nous aussi, et puis pour tout l'écosystème océanique. Et donc moi, j'ai voulu mettre en lumière ces espèces qu'on connaît pas à travers ces fossiles, donc encore une fois avec un récit un peu catastrophe, en partant du principe que si on continue d'extraire de la manière dont on le fait aujourd'hui, probablement il ne restera plus rien et on ne pourra récupérer que des vestiges dans X années dans le futur.
Il faut venir quand même armé d'optimisme pour voir cette exposition-là.
Oui, mais pas que. En fait, je trouve que Yves-Marie Guivarch a fait un très beau travail de sélection et de programmation. C'est qu'on a toutes des regards très différents. Pas toutes avec l'idée d'alarmer, en fait. Il y a aussi beaucoup de poésie, des rapports aussi qui peuvent être plus contemplatifs. Donc c'est un mélange de plein de visions différentes. Donc c'est pas une exposition alarme, hein. C'est vraiment plein de regards différents sur la mer. Quel est le quotidien d'une personne qui travaille dans le milieu maritime, quelles sont les menaces qui pèsent sur le milieu maritime, quel rapport poétique ou philosophique ou très personnel on peut avoir avec la mer. Voilà, c'est plein de plein de visions différentes. Je pense qu'effectivement, on retrouve ce côté inquiétude et alarmant chez Anita et dans mon travail également, puisque à la fin de l'exposition, je crée une espèce de petite antichambre dans laquelle je mets tout un index scientifique de toutes les espèces que j'ai montrées dans l'espace d'exposition. Et donc, il y a un peu de lecture à faire pour ceux qui auront envie, où je parle de chaque espèce et les menaces qui pèsent sur ces espèces, et où je fais aussi un petit point récap sur quels sont les différents outils de pêche, comment sélectionner au mieux si on veut protéger le milieu marin.
Même si on pourrait être en raison d'avoir peur pour l'eau, pour les mers, on va parler et terminer avec ce chat qui, lui, n'avait plus peur de l'eau, c'est Flo, un film que tu montreras à tes enfants qu'il faudra que vous montriez à vos enfants aussi. C'est l'histoire d'un chat, donc, qui n'avait plus peur de l'eau. Alors, pourquoi il n'a plus peur de l'eau, Flo ?
Bah parce qu'il n'a pas le choix, en fait. Juste, c'est... Bah de nouveau, j'ai choisi beaucoup de films catastrophes. C'est quelque chose qui est vraiment au cœur de ma démarche. Bah ouais, c'est une catastrophe naturelle, la montée des eaux, il se passe tout un tas de trucs. Et donc du coup, la maison dans laquelle il vivait et qu'on découvre quand même plus ou moins abandonnée, est en train d'être submergée par l'eau. Et donc il n'a plus le choix que de sauter s'il ne veut pas mourir. Et donc c'est toute une aventure où il rencontre d'autres animaux, où il y a une espèce de solidarité en fait qui se construit, des amitiés. Il n'y a pas du tout de parole et en fait tout se joue dans les expressions des animaux. C'est vraiment un film qui m'a bouleversée. J'ai beaucoup pleuré. Et parce que voilà, il y a encore. On montre un côté. J'aime pas dire humanisé parce que c'est encore hyper anthropocentré. Mais voilà, ça montre bien que les animaux ont aussi des sentiments, vivent et expérimentent les choses et ce qui se passe autour. Et finalement, on est aussi tout petit face à la nature, aux catastrophes naturelles. Et voilà, et ce lien qui se crée entre tous ces animaux pour essayer de s'en sortir, c'est très joli, sans que rien soit dit, un peu de musique. Et les images sont sublimes et il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'est beau.
Ces disques, ces films sont bien sûr tous au deuxième étage de la bibliothèque des Champs Libres. Évidemment, ce Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, de Dins Zilbalodis. On va terminer en musique avec peut-être un souvenir récent de concert pour les musiciens que tu vas nous proposer, Manon.
Oui, je connais la trompettiste Hérèle Besson depuis quelques années déjà. Mais c'est vrai que j'ai découvert là très récemment son duo avec Lionel Suarez, qui est accordéoniste. Et j'ai eu la chance de les voir en concert la semaine dernière à Saint-Malo. Et c'était vraiment fantastique. Et j'ai été aussi bien transportée par elle que par lui, parce qu'ils arrivent à créer ensemble. Et c'était un très beau moment. Et donc leur album Blossom en plus est très récent, il est sorti en janvier.
Vous allez retrouver les deux propositions Mémoire sauvée de l'eau et puis La mer endormie de Manon Langeouère dans le cadre de cette exposition La mer jamais ne s'oublie. Dernier rappel, c'est du 28 avril au 27 septembre. Vous retrouverez aussi évidemment le travail de celles que j'ai citées, que je cite à nouveau, Marine Lanier, Julie Bourg, Juliette Pavy et Anita Conti. Vous retrouvez toutes les informations sur les riches travaux de Manon Langeouère sur manonlangeouere.com. Un dernier mot peut-être ?
Ça laisse sans voix un peu. Un dernier mot, non, regardez les espaces, apprenez à vraiment regarder les espaces que vous traversez.
La fin de l'émission Le Grand Tour que vous écoutiez à l'instant, Champ Libre A, saison 3, épisode 8 avec Manon Langeouer. Merci encore une fois à Clarisse Mérour et Antoine Blanchet à la Bibliothèque des Champs Libres. On se retrouve lundi pour une nouvelle mini-semaine d'émissions dans Le Grand Tour. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bon week-end sur Canal B ou ailleurs. Ciao !